ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Monsieur Denis Mangado, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu nous présenter vos vœux, votre foi, vos convictions. Vous êtes président honoraire du musée du protestantisme. Nous allons en parler tout à l'heure, mais vous avez aussi une longue carrière comme ex-secrétaire général de l'UCJ Jeune...
Union chrétienne de jeunes gens.
Voilà. Voilà. Et UCJ. Plus connu sous son sigle anglais, 40 ouais. millions de membres.
YMCA, Young Men Christian Association.
Ouais. Vous êtes passionné par... j'allais dire l'histoire des églises, par la théologie, vous avez enseigné, fait du catéchisme, vous parlez aussi au temple à Toulouse, parfois, et sur la prière. Et...
J'ai été prédicateur laïque, oui. Oui.
Tout de suite, nous entrons dans ce débat peuple de prêtres, peuple de baptisés. En fait, vous venez de loin, puisque vous êtes né dans une famille protestante qui était en Espagne et qui se sont, d'origine catholique et qui se sont convertis au moment du réveil.
Oui,
c'est un terme que nous aurons à discuter aussi.
Oui, ma famille maternelle essentiellement, mon grand-père et ma grand-mère sont issus du réveil protestant en Espagne à la fin du 19e siècle. Et mon père, lui, qui a été éduqué dans une école protestante, dirigée d'ailleurs par mon grand-père et ma grand-mère maternelle, est devenu réformé, protestant réformé, au début du XXe siècle.
Pour vous, ce n'est pas seulement des idées, c'est une conviction profonde, alors j'allais dire en Jésus, cet homme, Dieu, nous venons de fêter Noël, et qui, alors on va dire aujourd'hui, ça pourrait être le moment où on fait la circoncision, mais chez les catholiques, on n'a plus trop évoqué ce rituel.
Oui,
et il y a des rites qui sont oubliés. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine pour vous, Jésus est vivant.
Ça c'est clair, oui. Quand vous dites c'est une conviction, oui, c'est une conviction, elle n'est pas tombée du ciel. Ça a été une construction progressive. Ça a même été, une forme de combat intérieur. J'ai le souvenir qu'en effet, à 17-18 ans, je me suis posé la question, est-ce que tout ça vaut la peine, hein? Est-ce que ces histoires que l'on peut lire dans la Bible ou dans les évangiles, c'est quelque chose? Et donc, je parlais de combat, ça a été, et je me suis dit, oui, ça peut et ça vaut la peine. Ça peut valoir et ça vaut la peine. Ceci dit, pour prendre une image, je n'ai pas une foi linéaire comme celle de Paul. Hein. Pour moi, il y a deux images ou deux exemples. Il y a Paul, qui, une fois qu'il est tombé du cheval, a vécu, j'allais dire, d'une manière linéaire. Et puis il y a Pierre. Il y a Pierre qui, on le sait, a eu des hauts, a eu des bas, a renié, a tourné le dos, a voulu prendre l'épée pour couper l'oreille du centurion qui venait arrêter Jésus. Bon, un sanguin. Moi, je suis plutôt comme Pierre, voilà. Et même aujourd'hui, j'ai des moments de... je n'ose pas dire de reniement, mais...
La raison,
voilà.
Une réflexion. J'aime bien Paul Vane, l'historien, il dit « Les Grecs croyaient-ils en leur mythe ?» Ouais. Est-ce que Jésus est un mythe? Voilà la question. La Vierge Marie, est-ce que c'est des symboles, des dogmes? Vous dites non, c'est-à-dire...
Non, pour moi, ce n'est pas un mythe. Non, je dirais pas. En tout cas, pas pour moi. Voilà.
Moi, je suis sociologue, j'ai le droit de vous poser la question.
Oui, mais vous pouvez. Mais je réponds non, et je réponds non, mais si vous voulez me pousser et me dire « mais oui, mais pourquoi je dis non ?» C'est vrai que je ne suis pas théologien, je ne suis pas historien, mais bon, j'ai quand même, ne serait-ce que parce que pendant 30 ans, j'ai été catéchète pendant une trentaine d'années, j'ai donc travaillé, je me suis confronté à la Bible, je me suis confronté au texte et j'ai cherché, j'ai voulu comprendre. Et quand je dis ce n'est pas un mythe, ça s'enracine là-dedans, ça s'enracine dans ce vécu, dans mes pratiques, dans mes recherches, dans mes confrontations, dans les débats que j'ai eus avec les enfants et les adolescents pendant que j'étais catéchète, etc. Voilà.
Et vous lisez la Bible régulièrement, vous avez beaucoup, beaucoup de lectures, mais aussi vous êtes engagé. Vos responsabilités comme formateur, j'aime bien quand nous préparions cette émission, vous avez dit oh « ben, au Havre, avec l'Union chrétienne des jeunes gens, je rencontrais des communistes militants, des athées, des agnostiques. » Alors, il vous disait « Denis, la différence, c'est ce que tu pries, toi. »
Oui, j'ai été marqué par, lorsque j'étais au Havre, où je dirigeais un foyer de jeunes travailleurs, des UCJG, des Unions chrétiennes de jeunes gens, je rencontrais, dans le cadre de mon activité, je rencontrais des syndicalistes, entre autres, et l'un d'entre eux, qui était un communiste, mais vraiment convaincu, et nous avions de vrais et bons débats, nous nous retrouvions assez souvent d'accord sur beaucoup de choses, sur des analyses, et un jour, il m'a surpris. Nous venions d'avoir un débat, nous étions d'accord sur, comme je viens de le dire, sur nos analyses et les constats. Il me dit, au fond, la différence entre toi et moi, c'est que tu pries, tu as l'intercession. Je n'y avais pas pensé. Je dois dire qu'il m'a laissé réfléchi et je me suis questionné et je me suis dit, oui, il a sans doute raison. Et qu'est-ce qu'il te dit en te disant cela ? Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit que ben voilà, j'avais peut-être une espérance qu'il n'avait pas de la même manière. Bon. Et pour moi, c'est d'ailleurs le caractéristique de la vie et de la situation du chrétien. Le chrétien, selon moi, est tendu entre l'espérance et l'amour, entre l'illusion et la résignation. Bon. L'espérance sans amour, c'est de l'illusion. L'amour sans espérance, c'est de la résignation. Le chrétien, me semble-t-il, il est tendu entre les deux. Et si je faisais un axe mathématique, orthonormé, espérance en ordonnée et amour en abscisse, ma courbe personnelle là-dedans, je le disais tout à l'heure en évoquant Pierre, elle serait un peu avec des hauts et des bas. Voilà, il y a des moments où l'espérance me motive, il y a des moments où je suis plus porté par l'amour et l'espérance, je suis près du niveau zéro, et puis il y a des moments où ça repart, etc. Voilà.
C'est votre dernière homélie au Temple du Salin, mais j'aime bien aussi qu'il y ait une troisième dimension, parce qu'il n'y a pas qu'un axe orthonormé, il y a aussi une dimension qui s'est... Alors, vous aimez beaucoup le psaume 117 et surtout, je crois, prier, ça veut dire quoi ? C'est chanter, crier sa joie, c'est demander au secours. Alors, on croit que quelqu'un nous écoute et puis c'est dire pardon. Trois choses importantes pour vous.
Prier, écoutez, vous évoquez là le dernier culte que j'ai animé avec un groupe au Temple du Salin, qui était justement sur le thème de la prière, et j'avais pris pour le sermon ou l'homélie, j'avais pris évidemment ce texte de Matthieu où Jésus dit à ses disciples qui étaient un peu frustrés parce qu'ils avaient vu les disciples de Jean-Baptiste recevoir des formes de prière de la part de Jean-Baptiste, n'avaient rien, et donc ils questionnaient Jésus en lui disant, ben nous, quoi, qu'est-ce que tu nous dis ? Et Jésus leur dit, voilà comment vous devez prier. Bon, il dit comment ? Et c'est le Notre Père. Le Notre Père n'est pas ce que l'on doit prier, mais c'est le comment. Et pour répondre à votre question, il y a deux parties dans la prière. Il y a la partie « Je suis fils de Dieu », puisque j'ose l'appeler Père.
Frères des hommes.
Nous sommes frères et sœurs, fils de Dieu, puisque nous osons dire notre Père. Mais dans le même temps, je suis frère et sœur avec l'humanité. Et donc, c'est cette prière, où, pour répondre à votre question, comment prier, il y a les deux temps. Il y a le temps où je suis fils de Dieu et je prie, je reconnais, je loue Dieu, et il y a le temps où je prie avec les frères et sœurs. Je retrouve là, d'ailleurs, les deux dimensions, l'espérance et l'amour. Hein.
Voilà. Et l'émotion, puisque vous nous avez apporté le dernier chorale de Bach, puisque c'est la nativité selon...
C'est le dernier chorale, oui. Vous m'avez demandé...
La musique qui vous plairait.
Ouais, j'ai J'ai beaucoup d'émotions à l'écoute du dernier choral de la Passion selon Saint-Jean. Alors, il y a le choral, et puis qui est suivi d'un choral liturgique. Et ces deux chorales sont, pour moi, enfin, ils m'émeuvent beaucoup. Ils sont à la fin de ce grand œuvre qu'est la Passion selon Saint-Jean. Ils nous ramènent à l'essentiel.
Merci Christophe de nous le faire méditer.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et Denis Mangado, vous êtes président honoraire du Musée du protestantisme. Vous allez nous en parler tout de suite, puisque nous avons parlé déjà de vos responsabilités comme ex-secrétaire général de l'UCJ-IMCA.
Oui, alors le musée, c'est une aventure, je dirais, c'est une aventure de mon temps de retraite, puisque je suis à la retraite depuis 20 ans maintenant. Et ce musée est un musée qui est dans une région pas loin de Toulouse, dans les monts de Lacône, entre Castres et Lacône, dans une région qui a été marquée par les guerres de religion au XVIe et au XVIIe siècle. Et il existe depuis 1968, et dernièrement, nous avons pu, quand je dis dernièrement, ça remonte à 2010, nous avons pu, à la fois avec la communauté de communes, construire un nouveau musée qui héberge nos collections, qui héberge nos expositions. Et le thème de ce musée, non seulement c'est un musée du protestantisme, c'est-à-dire un musée d'histoire, éventuellement un musée de mémoire, mais nous lui avons donné, de son projet scientifique et culturel, nous lui avons donné la dimension suivante. C'est un musée qui va de la réforme à la laïcité, c'est-à-dire qui évoque cette histoire, combien douloureuse et combien difficile pour la France, hein, ce parcours qui a mené la France vers la laïcité, c'est-à-dire à cette loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Donc le musée évoque ce parcours. Hein. Il parle aussi, à travers ce parcours, de la place de la religion dans nos sociétés. Qu'est-ce que la religion? Quelle est la place, le rôle de la religion? Pourquoi la religion est conflictuelle? Et comment on peut arriver à dépasser la conflictualité de la religion? Et nous avons pris, évidemment, comme point d'appui pour répondre à ces questions, l'histoire de la minorité protestante en France, qui contient, si je puis dire, l'histoire contient tous les ingrédients pour aborder ces questions qui sont d'une actualité, vous le savez bien, d'une actualité brûlante.
Nous avions évoqué cela lorsque nous avons parlé de la marche dans Toulouse, oui, par rapport aux Huguenots. Et puis, vous avez, vous, personnellement, vécu à travers votre famille en Espagne la difficulté de ces années noires. Donc, quand vous parliez de toutes les religions qui peuvent être facteurs de paix, mais aussi vecteurs de violence, on est devant cette difficulté. Je vous demande de dire tout de suite le numéro de téléphone pour le lien, ceux qui souhaiteraient. Nous le redirons à la fin.
Alors,
de l'émission.
Le musée, oui, voilà. On peut téléphoner au 05 63 74 05 49, sachant que nous avons aussi un site.
Hein. Bien fait, bien sûr, on va en parler tout de suite, oui, avec justement la richesse des livres et puis des documents d'archives.
Le musée a une bibliothèque exceptionnelle de 30 000 volumes sur toute cette histoire et des archives. Bon, ce que je dois dire, c'est qu'actuellement, pour raison de travaux, d'extension et de réaménagement des espaces internes, le musée est fermé jusque, je pense, fin avril.
Bon. Donc, au beau jour,
il y a toujours un secrétariat d'école qui fonctionne, ouais, une réponse. On peut toujours consulter le site et la liste des livres de la bibliothèque.
Vous parliez de laïcité, je crois que ce sont les fondamentaux. On ne sait pas si c'est dans la culture occidentale ou si c'est un universel, parce que au niveau de la hiérarchie de certaines valeurs, on peut dire que tout le monde évoque liberté, liberté de conscience, c'est pas toujours appliqué, fraternité, vous l'avez dit tout à l'heure, frères et sœurs devant un père qui nous appelle à cette fraternité, égalité, voilà des mots qui peuvent n'être que des mots vides ou des mots valises, mais si nous réfléchissons sur ces mots, c'est la hiérarchie des valeurs. Certains disent non, d'abord la fraternité et la liberté après. D'autres vont dire non, c'est d'abord l'égalité. Alors, une question, c'est pas une question piège, mais l'évangile, c'est quoi ? C'est révolutionnaire ? L'évangile, c'est la miséricorde ?
Est-ce que l'évangile est révolutionnaire ?
Oui et non.
Si on le situe dans l'époque, il est vrai que les affirmations, les propositions portées par cet homme appelé Jésus,
le rabbin,
étaient tellement nouvelles qu'on peut dire que c'était révolutionnaire. Il en est mort d'ailleurs, bon, parce qu'il dérangeait. Bon, il dérangeait tout le monde, y compris et surtout la hiérarchie religieuse de l'époque, hein, le Sanhédrin, entre autres. Bon, donc on peut le dire, mais pour moi, l'évangile, il est un peu à contre-courant, il est un peu à côté. Il me déplace, il m'amène. Et c'est l'intérêt que je vois d'ailleurs à la lecture et à l'étude de la Bible, hein, il m'amène à me mettre ailleurs pour comprendre, regarder, écouter, analyser la société dans laquelle je vis. Voilà. Et peut-être qu'en ce sens-là, il peut être à certains moments révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il m'oblige à faire un tour. Bon, il m'oblige je viens de le dire, à regarder les choses autrement. Bien. C'est l'intérêt que j'y vois. C'est en tout cas comme ça. Hein. Moi, j'ai souvent dit, et je continue à le dire, la Bible est à la fois un remarquable livre de pédagogie et en même temps un remarquable livre d'analyse de ce que je peux vivre, ce que nous vivons aujourd'hui, ici et maintenant.
Bon. Mais il est interprété de tellement multiples manières, parce qu'il n'y a pas seulement les quatre évangiles, il y a aussi toutes les épîtres. Or, dans les épîtres, on voit bien ces tensions dans les premières communautés. Oui. Et puis, la lettre aux Hébreux, est-ce que vous croyez que le Christ se présente comme une offrande à Dieu qui apaise le courroux d'un Dieu vengeur, là, comme le dit dans la lettre aux Hébreux, et comme certains vont le chanter à minuit chrétien ?
Oui, oui. Alors, écoutez, je ne sais pas quoi répondre à ça, je viens de le dire. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas historien. Mais bon, il y a peut-être une part de possible dans cette affirmation. Hein. Christ offrande, je préfère reprendre le prologue de l'évangile de Jean. Voilà, qui pour moi, il est clair, il me dit les choses. La parole a été faite chair. Donc, Christ, c'est cette incarnation. Une parole doit être incarnée. Voilà. Et ce que je retiens de ce prologue, c'est ça. C'est qu'il ne peut pas y avoir de parole et de paroles qui portent, de paroles qui transforment, de paroles qui éventuellement créent, entre guillemets, s'il n'y a pas l'incarnation. Voilà. C'est-à-dire, la parole, elle est liée à l'action. La parole sans l'action, c'est du verbiage. Et l'action sans la parole, c'est de l'activisme. Bon, et pour moi, le prologue de l'évangile de Jean et tout l'évangile et la présence de Jésus, il me dit ça. Voilà. La parole, elle s'incarne.
Le reste est superficiel, c'est une vague. Quand on dit le réveil au niveau du culte, au niveau des dogmes, dites-moi, qui sait encore aujourd'hui la différence entre un crucifix et une croix ? Faut-il qu'il y ait un homme, j'allais dire un cadavre, sur le bois du supplice pour signifier un symbole incompréhensible ?
Vous parlez à un réformé, c'est-à-dire à ces chrétiens qui, dans leur temple, pas tout de suite, hein, c'est fin du 18e, début du 19e, ont placé la croix sans le Christ. Pourquoi ? Parce que Christ est ressuscité.
Il n'est plus là. Il nous attend.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Et je n'ai pas besoin de le voir souffrant, cloué, mutilé, torturé sur une croix, hein, je sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et la croix nue me le rappelle. Voilà. J'ai pas envie de pleurer, hein, devant un corps, comme je viens de le dire, mutilé, crucifié, torturé, mais je préfère voir cette croix qui me dit cela, le chemin, la vérité et la vie.
Alors ça, c'est la communion avec toutes les misères et toutes les souffrances du monde. Mais je voudrais, puisque vous êtes pédagogue, vous poser la question très compliquée de cette culture chrétienne encore trop souvent peut-être médiévale. Qui, parmi les jeunes de cette nouvelle génération, qu'on appelle génération Z ou Alpha, va pouvoir comprendre notre Père qui est aux cieux ? À l'heure des cosmonautes, l'énorme fossé se creuse entre l'expression traditionnelle de la foi et la culture moderne.
Oui, mais écoutez, ils le comprendront selon comment on leur en parle. Hein, je l'évoquais tout à l'heure, notre Père, voilà. Bon, moi, je le disais, bon, je crois en ce Dieu. Bon, et je le considère comme un Père. Non pas mon père, mais comme un père. Voilà, notre père.
Bien. Alors,
qu'il soit aux cieux ou pas, c'est pas le problème.
Oui, mais hein. Deux sacrements, sept oui. sacrements. Alors,
de quel sacrement parlez-vous ?
Ce qui est sacré, ce qui fait sens aujourd'hui dans un temple ou dans une église. Vous savez qu'il y a des petites différences entre ceux qui se disent Pierre, c'est la filiation par rapport à... le pape. La filiation par rapport oui. à Pierre, qu'on
succession
appelle le
apostolique.
Saint-Père.
Oui, la succession apostolique. Oui, alors écoutez, pour moi le sacré, c'est ce que la main de l'homme ne peut pas toucher, d'accord ? Voilà, bon. Donc, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, réformé, je sais que nous avons deux sacrements, hein, qui sont...
Le baptême.
Qui sont le baptême et l'Eucharistie.
Alors, le baptême, pas à n'importe quel âge, mais là, ça veut dire que
le
baptême, les protestants sont
à tout âge.
Sont pas
ça
toujours...
peut être à c'est tout ça. Âge. Dans notre Église, c'est à tout âge, enfant, adulte, etc. Voilà. Parce que là, nous sommes dans quelque chose, en effet, qui nous rapproche, nous attache, nous rattache, nous conduit à Dieu. Voilà. Mais après le reste, non.
Oui, mais ça, c'est un débat de toute façon qui nous dépasse, vous et moi et les sociologues agnostiques, mais... comme il pourra rapprocher ceux qui pensent qu'au niveau des humanistes, hein, des francs-maçons, il y a une humanité qui nous appelle à une réflexion. C'est ce que vous mettez aussi dans le musée du protestantisme.
Oui, puisque vous en parlez, en effet, nous avons dans le parcours du musée, jusqu'à présent, nous avons une séquence où nous évoquons la franc-maçonnerie. Et nous l'évoquons pourquoi ? Parce que à l'origine de la convention d'une catégorie, si je puis dire, de franc-maçonnerie, il y a deux protestants, le pasteur Anderson de l'église presbytérienne écossaise et le pasteur des Aguliers, qui était fils de réfugiés protestants français qui ont quitté la France au moment de la révocation de l'édit d'Ans.
Il faudra donc venir au musée parce que nous devons conclure.
Voilà,
vous vouliez
voilà.
conclure par le psaume 117 qui vous est cher et qui nous permettra de redire encore tous nos vœux pour que cette année 2023 soit une année bénie.
Oui, j'allais le dire puisque au début nous avons parlé de l'année nouvelle. Moi, je souhaite en effet que l'année nouvelle soit heureuse, riche de rencontres, riche d'émerveillements, riche de passion pour chacun d'entre nous, que nous ne prenions pas notre parti aussi de situations sur lesquelles nous pouvons effectivement intervenir. Et oui, ce psaume 117 un peu me dit ça, hein. Allez louer l'Éternel tous les peuples, allez louez-le toutes les tribus, oui, sur nous si fort son amour, la vérité de l'Éternel pour toujours, allez louer l'Éternel. Bon, ben quand on porte ça, je pense qu'on peut entrer dans l'année avec confiance, énergie, enthousiasme et en même temps lucidité et vigilance.
Merci beaucoup Denis, merci pour votre parole et votre foi. Merci à Christophe pour l'enregistrement et à tous, tous nos vœux. Bonne année.